Aujourd'hui, donc, nous recevons Olivier Faugeras, qui est informaticien. Olivier Faugeras est né le 22 décembre 1949 à Paris. Il est ancien élève de l'École Polytechnique, ancien élève de l'École Nationale Supérieure des Télécommunications, et il est docteur d'État S Sciences. Depuis 1989, il est directeur de recherche à l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, l'INRIA, responsable scientifique du projet RoboVis, à l'INRIA Sophia Antipolis. Et depuis 1996, il est professeur au Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Il est spécialiste d'intelligence artificielle et notamment de la vision par ordinateur dont il va, je pense, nous parler largement aujourd'hui. Il est membre de l'Académie des sciences et outre de nombreux articles qu'il a publiés dans les revues spécialisées, il a fait paraître deux ouvrages. Le premier, Three Dimensional Computer Vision, qui est paru au MIT Press en 1993, et le second, The Geometry of Multiple Images, qui va sortir au MIT Press dans les prochains jours, les prochaines semaines.
C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie aussi d'être venus si nombreux ce samedi matin. Donc le thème de mon exposé va être le traitement numérique des images, la vision par ordinateur. Et j'essaierai de vous mener par la main au travers de cette discipline assez nouvelle. Et je commence mon exposé par une question. Qu'est-ce qu'une image ? Il se trouve que c'est une question assez compliquée et dont les réponses sont multiples. Donc je vais me contenter de vous montrer quelques exemples d'images pour alimenter votre et notre réflexion. Vous voyez s'afficher sur l'écran qui est derrière moi deux images dites naturelles qui ont été prises avec un appareil de photo, une caméra dont nous reparlerons tout à l'heure, la mer, une forêt. Donc ce sont les images du monde qui nous entoure. Mais il y a bien sûr d'autres images dont on peut parler, qui sont importantes. Voici un exemple d'image de synthèse qui n'a pas de réalité physique, si ce n'est sa représentation informatique. C'est un modèle informatique qui est projeté sur un écran. Ce n'est pas une photo d'une scène existante. Donc là, ce sont surtout les capteurs dont vous avez l'habitude, des appareils de photo, des caméras. Mais il existe beaucoup d'autres capteurs qui fournissent des images. Je montre un exemple d'une telle autre image obtenue par résonance magnétique nucléaire. J'en reparlerai à la fin de mon exposé. Les images sont évidemment tout à fait différentes de celles dont vous avez l'habitude. Là, c'est une image volumique, elle est en trois dimensions, et c'est l'image de l'intérieur d'une tête humaine. Alors, une image, bon, il y a des sources multiples et variées d'imagerie. Je vais parler d'imagerie numérique. Alors, pourquoi numérique ? En fait, on peut dire que le traitement des images n'a pu démarrer que lorsqu'on a pu utiliser des ordinateurs avec une puissance de calcul suffisante pour traiter les masses de données considérables représentées par les images. Donc, une image, a priori, c'est quelque chose qui dépend de variables d'espace, les deux coordonnées dans le plan de l'image, mais aussi du temps, quand vous pensez à un film, de la longueur d'onde quand vous pensez à la lumière, quand vous pensez aux images multispectrales qui sont fournies par les satellites. Et cette fonction donc d'un a priori grand nombre de variables est numérisée, c'est-à-dire qu'on la représente par des chiffres qui sont eux-mêmes représentés dans un ordinateur qui permet de les manipuler à l'aide de programmes. Et donc, finalement, une image, c'est un objet de calcul. On prend une image comme un tableau de nombres, on calcule dessus, on fournit en général une autre image et qui s'appelle l'image traitée. Donc, le traitement des images, c'est ce processus qui peut être très complexe, j'en donnerai des exemples, qui prend un tableau de nombres, effectue des calculs dessus et fournit un autre tableau de nombres. Alors, traiter une image, c'est quoi ? La façon la plus élémentaire peut-être de penser au traitement d'image, c'est améliorer une image. Il existe des logiciels dont certains d'entre vous sont peut-être connus de vous, qui permettent de manipuler le contraste, la couleur, éventuellement de rehausser les contours. Donc c'est ce qu'on appelle l'amélioration d'image, la restauration d'image qui permet d'éliminer des dégradations comme le mouvement de la caméra qui introduit un flou. Ce sont des exemples de traitements où on part d'une image et on aboutit à une autre image, comme j'indiquais tout à l'heure. Un autre exemple, au moins aussi important, de traitement, c'est aller chercher dans l'image, dans la séquence d'images, une information qui va servir à accomplir une certaine tâche. Donc là, on débouche sur des choses comme la robotique, faire bouger un robot dans un environnement inconnu à partir de caméras qui lui permettent d'analyser son environnement. Donc après ces quelques exemples, cette mise en scène, si vous voulez, du traitement d'image, un historique, là encore, très rapide. Je commencerai aux années 70, en gros ça a commencé dans les années 60. Mais disons que le traitement et l'analyse des images, ce qu'on appelle aussi la vision par ordinateur, ça nous vient presque des États-Unis. C'est là que ça a démarré, grâce à des financements considérables du département de la Défense. Donc c'est quand même, le traitement numérique des images, c'est quand même un fils de la défense américaine, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Du point de vue des chercheurs qui travaillaient dans ce domaine, qui était donc financé par le DOD, le département de la Défense, le point de vue était extrêmement pragmatique. L'idée, c'était, j'ai des images, il faut que j'extraie les tanks, les camions, il faut que ça marche. Alors, soit pragmatique, soit extrêmement naïf, comme mon collègue Marvin Minsky du MIT, qui, dans ces années, avait posé à certains étudiants, vous savez, les étudiants aux États-Unis travaillent l'été, c'est pas comme en France, ils restent à l'université pour travailler, et donc il avait posé comme sujet d'été à ses étudiants, vous allez me résoudre le problème de la vision. Pour lui, c'était quelque chose d'assez simple, et suffisamment simple pour qu'un étudiant au niveau 3e cycle puisse le résoudre en un été. Évidemment, nous savons qu'il n'en a rien été, et que le domaine de traitement des traitements des images et de la vision par ordinateur est en fait un domaine en pleine expansion, et dans lequel de très nombreuses questions théoriques et pratiques continuent à se poser. Alors, l'approche plus moderne que je développerai dans cet exposé, qui a commencé en gros dans les années 80, tout petit peu avant, avec notamment David Marr, qui est d'origine anglaise, et qui a été recruté précisément par Marvin Minsky après son échec de l'été. Il s'est dit, il faut peut-être recruter quelqu'un d'un peu sérieux pour travailler sur ces questions. Donc David Marr était, parce qu'il est mort malheureusement en 80, était quelqu'un qui avait une formation double, une formation à la fois de neurophysiologiste et il avait une bonne formation de mathématicien. Et donc il avait une idée très, très, très intéressante et qui a en fait considérablement changé le point de vue des gens à la fois en neurophysiologie de la vision et en vision par ordinateur. C'est que finalement, la vision, c'est un processus qui a un but. Et le but de ce processus, peut-être un peu simpliste, nous y reviendrons, le but de la vision biologique, c'est de construire une représentation des surfaces, des objets qui sont autour de nous, de façon à pouvoir les reconnaître, les saisir, les éviter, interagir avec eux s'il s'agit d'autres êtres vivants. Donc il y a un but, le but, c'est de construire cette représentation des surfaces. Donc première idée. Alors, dans les années 80 aussi, on a vu un nombre considérable de mathématiciens purs et appliqués commencer à s'intéresser aux images, parce que c'était des êtres sur lesquels on pouvait finalement expérimenter tout en faisant des mathématiques intéressantes. Et donc, on a vu des contributions tout à fait remarquables venant de la géométrie, du calcul des variations. Ce sont deux points que je reprendrai en détail dans la suite de mon exposé. Des équations dérivées partielles, Pierre-Louis Lyon s'est venu s'exprimer ici, il a contribué également de manière très intéressante à l'avancement du traitement des images en utilisant ces techniques. Les statistiques jouent un rôle considérable en vision pour ce qui est de l'apprentissage, et l'algèbre également. Donc, apport des mathématiques, apport de la neurophysiologie, l'informatique, il ne faut bien entendu pas la passer sous silence, sans l'informatique, je l'ai déjà dit, on ne pourrait pas traiter les images. Donc à la fois les architectures plus rapides permettent de passer quelques secondes à faire un traitement d'image qui prenait il y a 10 ou 15 ans quelques heures. Les langages permettent de développer des systèmes beaucoup plus souples et beaucoup plus compliqués. Et les outils de développement sont également au centre des préoccupations des informaticiens qui font de la vision par ordinateur. Donc je reviens un petit peu à David Marr, car je pense que la vision par l'ordinateur a une dette envers cet homme. Donc j'ai parlé de son idée de la vision biologique qui avait un but. Il a aussi dit une autre chose très intéressante, il a dit que la vision c'était un problème de traitement de l'information. Alors ça peut paraître à certains un peu réducteur, mais ça a permis de faire décoller le domaine. Et donc, qui dit traitement de l'information dit qu'au fond, on est un peu indépendant du substrat sur lequel s'effectuent les traitements. Donc, on peut, dans une large mesure, étudier la vision indépendamment de l'organisme sur lequel elle est implémentée, entre guillemets. Donc, première idée. Autre idée importante, c'est l'idée réductionniste. Elle n'est pas propre à David Marr, mais disons qu'elle a été répercutée par lui. L'idée, c'est qu'on peut étudier séparément les différents modules de la vision par ordinateur. Donc, je parlerai d'analyse du mouvement, je parlerai de stéréoscopie, je parlerai de représentation des formes tridimensionnelles. Donc, tout ceci forme des processus qu'on peut, dans une large mesure, étudier de manière indépendante. Alors, autre idée qu'il a contribué à formuler et à diffuser, c'est finalement que quand on veut étudier les processus de vision, on peut se placer de manière très naturelle à trois niveaux qui sont dépendants, mais qu'on peut étudier de manière relativement découplée. Le premier, c'est le niveau computationnel. Donc, par exemple, la stéréoscopie, on va développer une théorie de la perception stéréoscopie en étudiant quelles sont les contraintes, quels sont les outils mathématiques qui permettent de résoudre ce problème, quelle est l'information nécessaire pour résoudre le problème de la stéréoscopie, sur lequel je reviendrai. Une fois qu'on a développé cette théorie, eh bien on peut passer au niveau suivant, qui est le niveau de l'algorithmique. Comment on l'implémente, comment on la réalise, quelles sont les structures de données qui sont nécessaires, quels sont les algorithmes qui vont intervenir, qui vont mettre en jeu les idées de la théorie. Et enfin, le dernier niveau, c'est le niveau de l'implémentation, la réalisation physique, donc soit en wetware, dans un cerveau, soit dans un circuit de silicium, par exemple. Alors, je vais prendre un exemple assez simple, et qui est vraiment le début du traitement numérique des images, l'exemple de la détection de contours. Détection de contours telle qu'il est vu, il a été vu par David Marr et ses collègues, et notamment Hélène Hildreth, son étudiante, qui a fait un travail remarquable sur la détection des contours biologiques. Donc l'idée de départ, c'était que puisqu'on cherche à représenter les surfaces, eh bien, il va falloir représenter les éléments de cette surface à différentes échelles. Suivant que vous vous rapprochez ou vous éloignez d'une surface, vous ne voyez pas la même chose, et pourtant il faut être capable de la représenter à ces différentes échelles. Donc l'analyse mathématique du problème sur laquelle je ne m'étendrai pas, conduit très naturellement à définir une théorie qui dit que les contours, il faut les détecter à l'aide de gaussiennes, ou plutôt de laplaciennes gaussiennes, qui sont des dérivées secondes de gaussiennes, parce qu'elles ont des bonnes propriétés de localisation spatiale et fréquentielle. Et donc, voilà sur un petit dessin qui montre en fait le laplacien d'une gaussienne, une coupe, vous voyez là. Voyez ici la courbe, la représentation fréquentielle dans le domaine de Fourier est celle qui est indiquée ici, je pense qu'on voit avec ma souris, oui. Voilà l'opérateur qui permet de détecter des contours. Alors évidemment, cet opérateur, on peut l'implémenter, là je mets des guillemets, soit en wetware, c'est-à-dire en utilisant des cellules. Alors ici vous avez une coupe de la rétine, et on peut montrer que certaines des cellules qui constituent cette rétine effectuent probablement un traitement qui ressemble à celui qui est suggéré par la diapo précédente, c'est-à-dire vous avez ici une zone d'excitation, une zone d'inhibition latérale qui peut se modéliser de manière assez simple par une convolution, c'est-à-dire une opération linéaire. Cette opération, donc, on peut l'effectuer ici, qui est un circuit de silicium assez ancien, mais qui avait été développé à l'époque par Hélène Hildreth et ses collaborateurs. Alors, le résultat de cet opérateur sur une vraie image, ici vous avez une photographie d'une statue, et vous voyez que les contours sont assez nombreux, vous avez ici des surbrillances, vous avez ici des contours d'occultation, et ces contours sont détectés à plusieurs échelles, ici c'est l'échelle la plus grossière. Si vous voulez, ce sont les contours les plus stables au point de vue de la perception dans cette image. Et ici, à deux échelles de plus en plus fines dans l'image qui est indiquée ici. Donc, deux idées importantes. La détection multi-échelle et des contours pertinents au sens où ils représentent des éléments de la surface des objets. Nous y reviendrons. Alors, après ce petit tour d'horizon sur l'influence de David Marr et ses étudiants sur la séparation des trois niveaux, je vais maintenant passer un peu plus de temps sur deux aspects qui sont, de mon point de vue, très importants. L'incidence de la géométrie sur le traitement et l'analyse des images et l'influence du calcul des variations, des équations dérivées partielles. Alors, ça correspond à deux points de vue tout à fait différents. La géométrie, en fait, on regarde plutôt le capteur, les yeux dans le cas d'un système biologique. On essaie de modéliser la façon dont les images se projettent dans ces différents capteurs, sur ces différentes caméras, et d'utiliser cette modélisation pour ensuite faire une représentation 3D. Mais l'accent n'est pas mis sur les modèles 3D. D'ailleurs, dans les programmes qui ont été réalisés, il y a une large part d'intervention humaine, donc il ne s'agit pas d'automatisation de la vision. Par contre, dans la partie suivante de l'exposé, l'approche variationnelle, je ferai plus attention à la partie modélisation du contenu de la scène. Donc, commençons par la partie géométrie. Alors, la partie géométrie, en fait, est très influencée, les travaux qui sont ceux des collègues dans ce domaine, par une thèse assez ancienne qui est due à deux mathématiciens, Klein et Weil, en 1872, qui en fait ont défini ce qui s'appelait à l'époque et aujourd'hui encore, on appelle le programme d'Erlangen. Erlangen, c'était l'université où Klein travaillait. Et donc l'idée, c'était finalement en géométrie, les seules propriétés géométriques qui sont importantes sont celles qui sont invariantes sous l'action d'un certain nombre de groupes de transformation. Alors, je vais prendre dans mon exposé un groupe très simple, ce sera le groupe que nous connaissons tous, le groupe des déplacements, quand on se promène dans l'espace, les translations, les rotations. En fait, il y a un petit peu le facteur d'échelle aussi, puisqu'en vision, c'est très important. Donc, les propriétés géométriques qui nous intéressent sont celles qui sont invariantes par ce groupe de transformation. Alors, inversement, mais c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, quand vous avez une mesure qui est invariante par un groupe de transformation, par exemple les longueurs, quand vous translatez un morceau de bois, sa longueur ne change pas quand vous le tournez. C'est un invariant. Et donc, ces trucs-là, ces choses, ces objets qui sont invariants, ont toujours, c'est pas toujours facile de la trouver, mais toujours une interprétation géométrique qui est intéressante. Alors, comme nous le savons, ce programme a eu un succès absolument fabuleux en mathématiques et en physique. Et ce que je voudrais présenter maintenant, c'est un écho assez lointain de ce programme dans le traitement et l'analyse des images. Alors, je vais commencer par, je parlais des capteurs, une caméra, qu'est-ce que c'est qu'une caméra ? C'est en fait une machine projective. Alors, projective au sens naïf du terme, c'est-à-dire qu'elle projette effectivement le monde sur une surface plane qui est celle de la rétine. Et puis, de manière un petit peu plus, un peu plus compliquée, c'est un opérateur projectif au sens de la géométrie projective. En fait, cette remarque a été faite il y a bien longtemps, comme vous le voyez sur cette gravure du peintre et graveur allemand Albrecht Dürer, donc 16e siècle, que j'ai un petit peu retouché en utilisant certains outils informatiques. Quand j'ai rajouté ici un cadre en noir et puis une croix qui n'était pas sur la bien entendu sur la gravure initiale. Et donc, cet homme est en train d'essayer de simuler une projection perspective en utilisant, donc de cette femme qui est allongée, en utilisant une grille cartésienne ici. Et ce qu'il fait, c'est fixant son regard sur le nez, par exemple, il détermine quel est le point d'intersection du rayon optique avec cette grille, et il le rapporte sur cette grille qui sera son dessin. Donc il y a une tentative ici de simuler exactement le processus de projection perspective. D'un point de vue moderne, évidemment, on peut formaliser ça en utilisant des outils de géométrie projective. Donc vous avez ici un petit schéma très simple qui est un excellent modèle d'une caméra avec un centre optique, le plan rétinien sur lequel se forme l'image, le plan focal, un point de l'espace 3D qui se projette sur le plan rétinien. Donc, grand M devient petit M. Et cette opération de projection se formalise d'un point de vue mathématique par une multiplication matricielle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette matrice grand P est fonction de deux types de paramètres qui nous importeront dans la suite de cet exposé. Le premier, les paramètres intrinsèques. Alors, qu'est-ce que c'est que les paramètres intrinsèques? C'est par exemple la focale, l'ouverture, la position du point principal, etc. Donc, ils caractérisent le processus de fabrication de votre caméra, si vous voulez. Et les paramètres extrinsèques, ce sont ceux qui caractérisent sa position et son orientation dans l'espace. Bon. Donc, une question qu'on les gens en vision par ordinateur ont été conduits à se poser très naturellement, c'est comment peut-on étalonner une caméra? Autrement dit, comment, à partir d'un ensemble d'images, est-ce que je peux calculer les paramètres intrinsèques de cette caméra, sa focale, son ouverture? Alors, vous allez me dire, mais il suffit de les lire sur la lentille. Oui, mais pas toujours. Et puis, ces paramètres ont tendance à changer. Donc, il est important d'être capable, ou bien on ne vous les a pas communiqués, donc il est important d'être capable de les calculer à partir des images elles-mêmes. Ceci en vue d'une reconstruction. Alors, il existe deux grandes classes de techniques pour effectuer cet étalonnage. Technique classique, qui est la photogrammétrie. On met des points de contrôle dans l'environnement. Vous avez peut-être vu des gens qui mettaient des grilles dans l'environnement et qui utilisent ces grilles pour calculer la position, l'orientation, les paramètres de la caméra. Et puis, une contribution majeure de la vision par ordinateur, c'est d'exploiter une relation entre ces paramètres intrinsèques dont j'ai parlé, donc la focale par exemple, et un être mathématique tout à fait étrange qui nous vient des mathématiques de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui s'appelle l'ombilique. Alors vous avez ici un petit dessin qui représente cet ombilique de manière très très schématique. Là, vous retrouvez le modèle de votre caméra, son centre optique, son plan rétinien. Puis là, j'ai tracé un autre plan. Ce plan n'existe pas vraiment. C'est ce qu'on appelle en géométrie projective le plan à l'infini. C'est-à-dire, c'est l'horizon. Puis dans cet horizon, j'ai tracé une conique qui s'appelle le grand oméga, qui en fait n'existe pas non plus parce que c'est une conique imaginaire. C'est-à-dire que tous ces points ont des coordonnées qui sont imaginaires pures. Mais ça fait rien, elle existe, elle a une existence mathématique, et notamment elle se projette virtuellement dans cette rétine. Et sans entrer dans les détails, cette conique en fait définit la géométrie euclidienne du monde 3D qui entoure le photographe, et les relations entre la conique, donc la géométrie euclidienne du monde, et la projection sur la rétine, et précisément nous permet de récupérer les paramètres intrinsèques de notre caméra, ce que je voulais dire, c'est que cet ombilique, c'est une mire d'étalonnage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mire d'étalonnage? Eh bien, c'est ça. Par exemple, c'est cette espèce de dièdre sur lequel on a collé des papiers avec des carrés noirs et blancs, dont on connaît parfaitement la géométrie dans un repère qui est lié au dièdre. Et donc, cette mire de calibration, qui est très lourde, qu'il faut porter dans l'environnement quand vous travaillez avec un robot, permet effectivement d'étalonner. La différence avec l'ombilique dont je parlais tout à l'heure, cet ombilique, comme c'est un être mathématique, c'est une mire d'étalonnage qui est, comme il est dit sur le transparent ici, qui est disponible gratuitement, ça ne coûte rien, il est là toujours, bien qu'il soit invisible, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, l'idée ici, c'est que je mentionnais tout à l'heure, c'est d'exploiter la relation, en fait, entre une image, mais deux images, et même plusieurs images, entre cet ombilique, ce fantôme à l'infini, et ses projections dans le plan rétinien, pour calculer les paramètres intrinsèques. Alors, pour être un peu plus précis, il suffit de prendre trois vues, donc vous avez votre appareil dont vous ne connaissez pas les caractéristiques, vous faites trois photos en bougeant un peu, et ensuite, les mathématiques et l'informatique qui est derrière permettent d'estimer les cinq paramètres intrinsèques de votre appareil de photo. C'est extrêmement pratique quand on ne dispose pas d'une mire de calibration. Alors maintenant, après ce petit épisode plutôt mathématique, regardons quelques applications de ces idées à des choses apparemment très simples, mais qui nécessitent l'utilisation de tels outils. Alors ici, une mosaïque. Alors une mosaïque, qu'est-ce que c'est ? Ici, je suis allé sur la promenade des Anglais à Nice et j'ai pris, avec un appareil posé sur un trépied, un grand nombre d'images autour du Carlton. D'accord ? Ensuite, les outils de géométrie projective dont j'ai parlé très rapidement m'ont permis, de manière cette fois-ci entièrement automatique, d'assembler ces images en une immense mosaïque, immense parce qu'elle est effectivement très grande, c'est une très grande image, une mosaïque qui représente donc un panorama, si vous voulez, de tout ce que, de tout l'environnement que j'ai pris à l'aide des photos dont je parlais tout à l'heure. Et le résultat, c'est que je peux développer ici un outil qui me permet, en fait, de synthétiser un nombre arbitrairement grand de films. C'est-à-dire ici, tout se passe comme si j'avais bougé une caméra, non pas un appareil de photo cette fois-ci, mais une caméra, et si j'avais filmé l'environnement d'un point de vue qui n'est pas exactement le point de vue que j'utilisais quand j'ai pris mes photos. Vous voyez ici, je synthétise également des mouvements de caméra qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire des changements de focale, de paramètres intrinsèques, qui n'ont rien à voir avec les paramètres intrinsèques de la caméra, de l'appareil de photo qui m'a permis de prendre les photos. Donc vous avez ici un exemple d'un des films en nombre infini, je le répète, que je peux synthétiser maintenant à l'aide de la mosaïque qui se trouve ici. Donc voici un premier exemple. Un autre exemple de synthèse d'image, là encore, mais un peu plus compliqué. Pour être plus précis, la synthèse d'image que je vous ai montrée tout à l'heure faisait intervenir uniquement des mouvements de rotation de la caméra et des changements de paramètres. Quid de la translation ? Eh bien, la translation, on peut également synthétiser des films où le mouvement de l'observateur est en fait simulé. Mais l'idée force sur laquelle je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais sur laquelle je voudrais insister maintenant, et contrairement à ce que je vous montrerai dans quelques minutes, l'idée force ici, c'est qu'on ne va pas utiliser un modèle 3D explicite de la scène. Le modèle de la scène, c'est l'ensemble des images de la scène. D'accord ? Donc je vais prendre ici un petit exemple. Un arboretum qui se trouve pas loin de Roquencourt, qui se trouve à côté de Versailles. On a pris trois photographies de ce petit chemin sur la gauche, trois photographies sur la droite. On les a assemblées en deux mosaïques. Et donc ces deux mosaïques constituent en fait un modèle implicite, tridimensionnel de l'environnement. Et à partir de ces deux mosaïques, je peux synthétiser, par calcul, un film. Alors tous ces films sont des films cycliques, c'est-à-dire que quand j'arrive au bout, je recommence au début. Donc ça peut être un petit peu gênant au début. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que, vous voyez, derrière ce cyprès, apparaissent des détails qui ne sont pas présents au début de la prise de vue. Donc il y a bien un vrai traitement de l'information tridimensionnelle ici, qui n'est pas explicite dans les images, elle est implicite. Donc c'est une idée intéressante pour les applications, et également d'un point de vue théorique, puisque le modèle n'est pas explicité ici. Alors, on peut également expliciter le modèle. Je vais en donner maintenant quelques exemples. Donc, application de ces idées d'ombilique, de conique à l'infini, à la modélisation tridimensionnelle. Alors, deux exemples de... Voilà. De telles modélisations. Ici, vous reconnaissez... Là encore, deux mosaïques. La scène est différente, il s'agit d'un paysage montagneux. Et donc, à partir de ces deux mosaïques, on reconstruit, à l'aide des techniques de calibration que j'ai développées tout à l'heure, on reconstruit tout d'abord un modèle tridimensionnel fil de fer, si vous voulez, de cet environnement, qui est suffisamment riche en géométrie tridimensionnelle, mais qu'on peut également compléter à l'aide des images qui sont ici, par de la texture. Donc ici, la texture de la montagne a été plaquée sur le modèle tridimensionnel. On a même rajouté des effets de synthèse d'image. Les nuages sont des fractales qui ont été rajoutés dessus. Et également, l'avion, le planeur, est quelque chose qui est purement synthétique. Donc vous avez un mélange d'imagerie réelle et d'imagerie synthétique qui est tout à fait surprenant. Un autre exemple du même genre... où là, on prend quelques photos simultanément. Donc là, les appareils photos sont synchronisés d'un basketballeur, un joueur de basketball. Et on va créer, comme tout à l'heure, comme dans l'exemple précédent, un modèle fil de fer, c'est-à-dire un modèle tridimensionnel qui contient uniquement la géométrie. Vous voyez que grâce à la calibration et, je voudrais le dire et le répéter ici, une certaine intervention humaine. Ce modèle n'est pas construit de manière entièrement automatique, contrairement à certains des exemples que je montrerai tout à l'heure. Il y a de l'intervention humaine non négligeable ici. Et donc on aboutit finalement, en utilisant le modèle 3D et les images elles-mêmes, à un modèle tridimensionnel texturé, où donc le modèle a été habillé avec les images qui sont les images d'origine. Alors, dernier exemple de ce genre de technique, quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle pompeusement la réalité augmentée. Vous en avez vu quelques exemples. La réalité augmentée, les effets spéciaux. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'insérer dans des images, dans des séquences d'images. Voilà une séquence d'images qui n'est pas du tout professionnelle. Elle a été prise par quelqu'un qui portait un petit caméscope sur l'épaule, donc la qualité n'est pas très bonne. Mais peu importe, ce qui est important de démontrer ici, c'est la flexibilité et la puissance des algorithmes qui permettent de récupérer le mouvement de la caméra dans l'espace de ce laboratoire, l'idée étant d'insérer dans cette séquence des objets synthétiques. Donc pour insérer ces objets synthétiques qui sont tridimensionnels, il faut évidemment avoir une idée de la position, de l'orientation de la caméra qui a pris cette scène et de la forme 3D de certains des objets présents. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, cette histoire-là? Eh bien, ça fonctionne de manière relativement automatique. Grâce au traitement d'image, on va aller chercher dans la séquence ce qu'on appelle des points caractéristiques, qui sont indiqués en rouge. Ça doit être assez difficilement visible la salle, mais il y a un certain nombre de points soulignés en rouge ici, et qui sont suivis par algorithme dans la séquence d'image, tout du long. Ces points caractéristiques, les voici encore, permettent de reconstruire en 3D le mouvement inconnu a priori de la caméra, ses paramètres internes, donc la focale, le point principal, comme nous le disions tout à l'heure. Et à l'aide du modèle que je vous montrerai dans ma deuxième ou troisième diapo, ce modèle qui lui a été conçu entièrement dans un système de CAO, bien ce modèle nous allons maintenant l'insérer dans la séquence initiale. Vous voyez, la lampe est ici. Vous remarquez même peut-être qu'elle porte des ombres sur certaines parties de la scène. Et on peut maintenant regarder la séquence initiale dans laquelle on a rajouté cet objet qui n'y appartient pas, qui est un objet purement synthétique. Alors les applications de ce genre de technique sont innombrables. Notamment les effets spéciaux pour le cinéma, la télévision. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui reste quand même encore dans une certaine mesure interactif. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, les gens qui font des effets spéciaux dans les films utilisent maintenant ce genre de logiciel. Et pour réaliser un effet spécial qui leur prenait, disons, 100 heures, grâce aux logiciels qui ont été développés par les gens de vision par ordinateur, le temps nécessaire tourne autour de 10 heures. Donc il y a un facteur 10, un gain en temps qui est tout à fait considérable. Donc après ce tour d'horizon assez rapide de l'impact de la géométrie sur le traitement des images, donc cette focalisation, si j'ose dire, sur les capteurs, je vais maintenant regarder plutôt le contenu de la scène. Donc en développant une autre approche qui est... qui est l'approche variationnelle. Voilà. Et donc, l'idée ici est de regarder le contenu de la scène et d'essayer d'y reconnaître des objets. Alors, le formalisme est assez différent. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train d'observer, comme tout à l'heure d'ailleurs, une série d'images, un film par exemple, et à l'intérieur de cette série d'images, on est à la recherche d'un modèle, c'est-à-dire un objet. Ce modèle, vous avez une certaine information a priori le concernant, donc vous pouvez le paramétrer par un certain nombre de paramètres, et l'idée cruciale de ce genre de technique, c'est de définir au fond une énergie. C'est une énergie virtuelle, bien entendu, elle n'a pas de sens physique, Cette énergie va mesurer l'adéquation ou l'inadéquation, si on cherche à la minimiser, du modèle avec les données, c'est-à-dire les observations, les images. D'accord ? Et donc l'idée, c'est de minimiser l'énergie de manière à trouver le meilleur modèle qui explique les données. Alors, comme je l'indiquais, ce principe de minimisation d'une certaine énergie est tout à fait similaire à un principe qui est fondamental en physique, c'est le principe de moindre action. Une équation compliquée, mais peu importe. L, le Lagrangien, M, le modèle, et l'énergie qu'on cherche à minimiser pour retrouver l'objet dans la scène, si vous voulez. Et les méthodes qui sont utilisées pour effectuer cette minimisation sont des méthodes issues de la physique mathématique, du calcul des variations des équations aux dérivées partielles. Donc ce dessin ici très simplifié montre un paysage énergétique, comme on dit. L'axe horizontal, c'est l'espace des modèles, un espace à une dimension pour simplifier. L'axe vertical, c'est l'énergie. Ici, c'est le profil d'énergie. Et donc, le modèle qui minimise cette énergie, c'est celui-ci. Vous avez ici un puits énergétique, donc vous ne le connaissez pas. Et donc, comment fonctionne la classe d'algorithme ici? Elle fonctionne en faisant, disons, une hypothèse. On va dire, mon modèle, c'est peut-être celui-là, M0. On s'aperçoit qu'il est loin de minimiser l'énergie, puisque l'énergie, c'est E0. Et toute l'idée, c'est d'essayer de changer le modèle, de le faire évoluer au fil d'un temps que je vais définir, de façon à aboutir au modèle qui minimise cette énergie. Alors, d'un point de vue plus détaillé, comment est-ce qu'on effectue cette opération? Eh bien, on fait un choix, une hypothèse, c'est celui-ci. On va en fait rajouter un paramètre dans la classe des modèles, c'est le temps, c'est pas le vrai temps, c'est le temps virtuel. Souvent je dis que ce temps virtuel, c'est le temps qu'on passe à attendre les résultats de l'algorithme devant sa console d'ordinateur, mais c'est un temps, en ce sens, il est réel. Et ce temps nous sert en fait à résoudre une certaine équation aux dérivées partielles, que je ne vais pas détailler. Mais l'idée, c'est, dans le cas où on va chercher une courbe dans l'image, et on va en voir un exemple dans quelques secondes, eh bien, l'idée, c'est que notre modèle initial est une courbe qui va se déformer dans l'image jusqu'à ce qu'elle vienne coller aux objets qu'on cherche à découvrir. Si vous êtes en trois dimensions, eh bien, cette courbe deviendra une surface qui va, elle, se modifier et venir coller aux objets. Alors, tout de suite, un exemple, le mouvement, premier exemple d'application, l'analyse de séquences d'images pour y détecter et y suivre des objets en mouvement. Donc là, il n'y a pas de 3D encore, les objets vont être des courbes planes, les contours des objets. On va utiliser le point de vue théorique, pour reprendre le point de vue de David Marr, le point de vue théorique va être de développer une théorie du flot optique, que je ne vais pas faire ici, et l'algorithmique utilise cette notion de calcul des variations en définissant une certaine énergie qui mesure l'adéquation du modèle avec la réalité des objets présents dans la scène. Il y a une petite remarque ici en bas de page. Un problème est celui des minima locaux. C'est un peu technique. Ça veut dire qu'on ne trouve pas forcément le modèle qui minimise complètement l'énergie. Bien, vous allez en voir un exemple sur cette première illustration de ce genre de technique. La séquence en question représente une séquence d'images de voitures qui se déplacent sur l'autoroute. Donc le problème, c'est de détecter ces voitures en mouvement et de les suivre dans la séquence. La petite vidéo montre un certain nombre d'exemples. Là, vous voyez les contours qui suivent deux des voitures, ainsi que leur ombre. Dans la première partie de la séquence, ce que vous voyez, ce sont des éléments de calcul intermédiaires, ces flèches un peu bizarres, que vous voyez apparaître ici, sont en fait des vecteurs qui représentent le flot optique dont je parlais tout à l'heure et qui est utilisé par l'algorithme pour suivre ces images. Alors je parlais aussi de minima locaux. Et oui, le minimum local, c'est qu'en fait, on suit deux des voitures, mais celles qui sont là-bas, on ne les suit pas. D'accord ? Donc en fait, on a trouvé un minimum local de notre énergie qui ne résout pas entièrement le problème de suivi. Donc, premier exemple de ces techniques. Un exemple où on va un tout petit peu plus loin. Dans l'exemple précédent, on était simplement en deux dimensions. On suivait ces contours dans l'image. Ici, on va aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va essayer de modéliser en 3D cette personne qui est en train de courir, en trois dimensions. Alors, on part là encore, de, non pas d'une séquence d'images, mais de trois séquences d'images qui sont prises de points de vue légèrement différents. Et on va essayer de reconstruire en 3D ce personnage en mouvement. Alors, la première étape, c'est d'utiliser la méthode précédente, c'est-à-dire ce suivi, pour, de manière indépendante dans chaque séquence, déterminer les contours de cette personne en train de courir. Alors, vous voyez ici les trois séquences, mais sur lesquelles on a superposé le contour détecté automatiquement par cette minimisation d'énergie dont je parlais tout à l'heure, donc le contour d'occultation de la personne en train de courir. Donc ça, c'est la première étape qui utilise les résultats précédents. La seconde étape consiste à modéliser cette personne en 3D, un modèle très simple, un modèle articulé que je vais animer devant vous. Donc vous voyez qu'il est modélisé à l'aide de sphères, de cylindres, de cônes, donc un modèle très élémentaire, articulé, puisque nous avons des articulations, donc il convient de représenter cette partie-là de la réalité. Et donc ce modèle, nous allons essayer de le faire coller le mieux possible aux images. Alors de quelle manière allons-nous procéder ? Très simplement, on va le positionner au hasard, c'est l'hypothèse dont je parlais tout à l'heure dans l'espace 3D. Ce positionnement va impliquer la projection du contour d'occultation dans chacune des trois rétines. Évidemment, ce contour projeté ne va pas correspondre au contour réel mesuré que vous venez de voir. Et donc toute l'idée, c'est d'ajuster, en utilisant une technique de minimisation d'énergie là encore, d'ajuster ce modèle en 3D de manière à ce que sa projection dans les trois images corresponde le mieux possible aux trois mesures qui sont faites. Alors, pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe, j'ai pris un exemple très simple. Ici, une sphère. Voilà la projection de la sphère dans l'image. Voilà le contour qui a été détecté. Et donc, on définit un certain nombre de forces qui viennent attirer le contour dans l'image. Et donc, vous voyez que le modèle, la sphère, vient coller, grâce à ces forces qui s'exercent sur elle, sur lui, le mieux possible sur l'image. Alors ça, c'est dans une vue. On peut faire, évidemment, et on ne va pas s'en priver dans l'exemple réel, le faire dans trois vues. Vous avez ici le modèle 3D, l'hypothèse initiale et les trois contours projetés qui sont attirés par les contours mesurés. Donc voilà l'idée. Sa mise en pratique sur une des images. Donc là, le temps réel est arrêté. Le seul temps qui s'écoule, c'est le temps virtuel. Donc là, je travaille sur un instant de la séquence, et vous voyez la convergence du modèle réel, ce modèle articulé, plutôt de son contour d'occultation, qui est représenté en rouge, vers les contours d'occultation représentés en bleu, je pense que vous le voyez à peu près en bleu, qui sont les contours réels mesurés dans l'image. Donc à l'aide de ces idées, on fait donc coïncider le modèle réel avec les mesures dans l'image. Et donc, le résultat, c'est qu'on peut faire courir le modèle dans les séquences initiales en suivant assez exactement les mouvements du personnage qui a été filmé. Et donc, ceci permet d'analyser ensuite, à partir, par exemple, des paramètres articulaires du modèle, d'analyser la façon dont cette personne court, marche, etc., etc. On peut reconnaître les allures. Donc voilà une application au mouvement. Une autre application est celle de la stéréoscopie. Alors la stéréoscopie, c'est quoi ? Eh bien, stéréoscopie, on a vu quelques exemples. On prend plusieurs images d'un même objet à l'aide de deux au moins ou plus caméras. Et le problème, c'est d'essayer de reconstruire en trois dimensions la scène. D'accord ? Donc le problème d'un point de vue théorique consiste à résoudre la chose suivante, c'est quels sont les n uplets de points, m1, etc., mn, des points d'image, qui sont les images d'un même point de la scène. Donc en particulier, quand n égale 2, c'est le problème de la stéréoscopie humaine. Donc la théorie a été assez bien développée, elle utilise des contraintes physiques, qui sont le fait que les objets réels sont en général réguliers, il y a assez peu de fractales dans les environnements habituels, les objets sont en général, mais pas toujours, des objets opaques ou semi-transparents. et des contraintes géométriques telles que celles de la géométrie des caméras. Alors, l'algorithmique pour réaliser cette théorie, vu de ce point de vue-là, va consister à reformuler le problème. On ne va pas chercher des appariements, comme je l'indiquais dans le transparent précédent, mais on va utiliser la même idée, mais en 3D, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire l'hypothèse de l'existence d'une nappe surfacique, d'une surface dans l'espace 3D qui représente nos objets. Notre hypothèse de départ sera fausse, et on va la faire évoluer en utilisant les modèles. Alors je vais prendre deux exemples simplement. Un premier exemple qui est un exemple synthétique, c'est-à-dire que les images ici ne sont pas des images réelles. Ce que je simule ici, c'est la prise de vue. Chacun de ces petits carrés représente une vue de cet objet, donc il consiste en deux tores qui sont entrelacés. Donc c'est une image assez difficile du point de vue de la géométrie. Il s'agit de deux objets de genre 1. Et donc l'hypothèse initiale, la voici, c'est cette sphère, cette surface, qui maintenant, sous l'effet de l'équation dérivée partielle que je n'ai pas le temps de décrire, et qui n'a pas d'intérêt dans ce contexte, donc sous l'effet de cette équation dérivée partielle, se modifie jusqu'à ce qu'elle vienne coller à la surface des objets présents dans la scène virtuelle. Vous voyez, elle se creuse, elle se déforme, elle change de topologie, et tout ceci est complètement automatique, contrairement aux exemples que je montrais dans la rubrique géométrie. Donc voilà le modèle 3D obtenu à la fin. Un autre exemple, ici, une vraie image stéréoscopique, au sens où nous avons uniquement deux images, qui sont le visage donc, d'un des chercheurs de l'équipe, les deux photographies, et la surface 3D qui se déforme. Vous voyez, on a l'impression qu'il surgit du volume. Petit à petit, la surface se déforme et vient coller à la surface en question, qui est donc ici son visage. Donc un autre exemple de cette idée de déformation d'un modèle en utilisant des techniques de calcul des variations. Je vais terminer cette rubrique par une application assez différente, mais où la méthodologie est la même, donc application des images de résonance magnétique. Je vous ai montré tout au début de l'exposé quelques images de résonance magnétique nucléaire. Les techniques vont être utilisées pour segmenter le cortex. On va essayer d'aller chercher les deux surfaces du cortex de la personne, c'est-à-dire l'interface entre la matière grise et le liquide céphalo-rachidien, la matière grise et la matière blanche. Pourquoi ? J'en dirai quelques mots dans ma conclusion. Donc ici, le modèle qu'on utilise, c'est un ensemble de deux surfaces qui sont couplées de la manière suivante. On connaît à peu près l'épaisseur du cortex chez l'homme, et donc on essaie d'imposer que la distance entre les deux surfaces est de l'ordre de quelques millimètres. Donc dans la petite animation qui suit, vous allez voir d'une part une espèce de voyage au travers des images que je vous ai montrées tout au début de ma présentation, donc un film synthétisé à partir de ces images de résonance. Donc voilà la promenade au travers du volume d'images 3D. Vous voyez le cerveau, la matière grise, la matière blanche. Et donc, il faut voir ça en 3D, c'est difficile, c'est un volume. Et donc, nous sommes intéressés par la recherche de deux surfaces à l'intérieur de ce cerveau, qui sont les interfaces du cortex. Alors, voilà l'hypothèse de départ, deux sphères qui commencent à croître sous l'influence, à se déformer, à prendre la forme du cortex sous l'influence de cette équation dérivée partielle. Il s'agit ici en fait de la surface interne, donc interface matière grise, matière blanche. Je n'ai pas encore démarré la recherche de l'autre interface, la voici, c'est la surface verte, qui elle va continuer à se gonfler vers l'interface matière grise, liquide céphalo-rachidien. Et donc là ici, il y a deux surfaces en fait qui ont été trouvées, reconnues, identifiées, à l'intérieur de cet immense volume de données. Voilà la partie interne. Après ces deux grandes rubriques sur la géométrie et sur les approches variationnelles, je voudrais terminer par deux ou trois planches qui sont... La première est une autocritique. Je ne voudrais surtout pas vous laisser sur l'impression que la vision par ordinateur, tous les problèmes sont résolus. Évidemment, j'ai montré des exemples qui marchaient, sans ça, ce n'était pas la peine de venir. Donc il y a des succès incontestables, je pense que vous en avez vu un certain nombre, mais dans la pratique, la vision par ordinateur est vraiment limitée par son manque de robustesse. C'est-à-dire que dès qu'on tombe sur une vraie application dans un environnement qui est non contrôlé, on a des problèmes, il faut intervenir, il faut qu'il y ait une interaction avec un observateur humain. Donc l'état de l'art à l'heure actuelle, c'est le deuxième point ici, c'est bien entendu contrairement au système de vision biologique, prenez l'exemple de la mouche qui sait se débrouiller très bien dans des environnements très compliqués, les systèmes de vision par ordinateur sont dans une très large mesure complètement incapables de s'adapter à des variations fortes de l'environnement, sont incapables d'apprendre, de construire sur l'expérience qu'ils peuvent acquérir au fil du temps. Donc c'est embêtant parce que là il y a visiblement un goulot d'étranglement et ce goulot d'étranglement, de mon point de vue, on pourra en sortir que si on réconcilie deux disciplines qui sont en fait assez éloignées au jour d'aujourd'hui l'une de l'autre, la vision machine, la vision par ordinateur, et la vision biologique qui, au temps de David Marr, se pratiquait simultanément dans certains laboratoires. Aujourd'hui, on peut les compter sur les doigts de la main. Alors, une piste pour essayer d'établir un pont entre ces deux disciplines, vision biologique, vision machine, ce sont les modalités nouvelles d'observation du cerveau. Alors, vous avez vu l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Alors, j'ai mis un X ici parce que l'IRM, ça peut être anatomique, diffusion, fonctionnel, etc., etc., qui permettent d'observer en temps réel le fonctionnement, je ne parle pas des applications médicales hein, ici, mais le fonctionnement du cerveau lorsque l'observateur effectue, le patient effectue des tâches perceptuelles. Alors également la magnéto-encéphalographie ou la MEG qui permettent, quand on les combine à des méthodes plus traditionnelles, comme, je ne sais pas, par exemple les enregistrements avec des micro-électrodes, donc ces modalités nouvelles permettent d'envisager de mieux comprendre le fonctionnement du système visuel. En ce qui concerne la MEG, justement, l'aspect temporel qui est complètement perdu dans l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, puisque le temps de réponse est de l'ordre de quelques secondes, peut être récupéré ici. Donc, je montre deux capteurs MEG. L'idée, c'est d'aller enregistrer au fil du temps, donc avec une résolution de quelques millisecondes, l'activité électrique du cerveau, contrairement à l'IRM qui mesure donc plutôt un accroissement du débit sanguin, enfin une variation du débit sanguin, donc deux activités complètement différentes. Donc cette activité électrique peut être mesurée avec la MEG ou le EEG, à l'aide de technologies qui sont des technologies très modernes, puisqu'on utilise la supraconductivité, donc c'est de la physique quantique, donc ce sont des outils tout à fait nouveaux. Et là, on peut récupérer ce qu'on perd dans l'IRM, c'est-à-dire la résolution temporelle. On a une résolution avec la MEG, on a une résolution temporelle de, disons, quelques dizaines de millisecondes. Et donc le rêve qui est en fait exprimé sur ces quelques... Je mets en place mes trois films. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez ici, en fait, une simulation. Ceci est une tête humaine. Ce qu'on simule ici, c'est la reconstruction, en utilisant la magnéto-encéphalographie, de l'activité électrique du cortex. Et cette reconstruction est extrêmement grossière, puisque nous représentons toute cette activité par deux dipôles électriques. Donc c'est honteusement simplifié, si vous voulez, la complexité de cette activité, mais c'est très largement l'état de l'art aujourd'hui en reconstruction tridimensionnelle MEG. Ce que vous voyez ici, c'est quelque chose, c'est un peu le rêve qui commence à se réaliser dans certains laboratoires. On a une reconstruction de cette activité électrique qui est représentée par ces variations de taches colorées, qui est en fait une représentation surfacique de l'activité, où la surface est en fait la surface du cortex, qui est utilisée pour contraindre la reconstruction, et celle obtenue ici à l'aide de l'IRM anatomique. Et donc les dipôles sont reconstruits sur la surface du cortex, qui a été reconstruite elle-même à l'aide de segmentation de l'IRM anatomique. Donc voilà l'espoir Voilà l'espoir que je formule. Et mon tout dernier transparent, la conclusion, donc, c'est que, de mon point de vue, je suis vraiment intimement persuadé que le rapprochement, le re-rapprochement, le nouveau rapprochement de la vision par ordinateur et la vision biologique est absolument nécessaire, car c'est grâce à ce rapprochement qu'on pourra, je pense, éliminer un certain nombre des goulots d'étranglement dont j'ai parlé en vision machine. On arrivera, en combinant ces deux disciplines, à une compréhension meilleure de la vision biologique, ça c'est évident. Les applications qu'on pourra traiter en vision par ordinateur seront évidemment plus complexes, puisqu'on comprendra les phénomènes d'apprentissage, d'adaptation. Et de mon point de vue, c'est la voie royale pour se faire rencontrer ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences de la vision, en plein essor, la vision par ordinateur, les mathématiques et l'informatique. Je vous remercie de votre attention.
Allez-y, monsieur.
Merci pour votre magnifique exposé d'images et d'imagie numérique. Par contre, j'aimerais vous poser d'abord une question sur ce que vous appelez réalité augmentée. Oui. Ce n'est pas un euphémisme, au fond, pour parler de réalité manipulée et peut-être un peu trafiquée. Autrement dit, peut-on attacher la moindre crédibilité de nos jours à une image ? Deuxième question, vous n'avez pas prononcé, me semble-t-il, malgré toute mon attention, le mot « couleur » pendant tout votre exposé. Et je remarque d'ailleurs que vous avez une chemise grise. Et troisième question, au fond, n'avez-vous pas, en extrayant le substrat humain, je dirais, à la notion de traitement d'image, éliminé toute émotion, en particulier le sens de la beauté? Et moi, il me semble, si je ne peux pas mettre un petit conseil, pourriez-vous inviter vos amis du MIT, le petit prince disait, si j'avais quelques minutes à perdre, je marcherais lentement vers une fontaine, à marcher lentement à travers le musée d'Orsay?
Bien, c'est une question intéressante en trois volets. Donc, alors le premier volet, je vais commencer par le second, la couleur. La couleur est en fait très chère à mon cœur malgré la couleur de ma chemise d'aujourd'hui. J'ai fait une thèse de PhD qui était consacrée entièrement à la perception des couleurs. Et donc, phénomène des bandes de Mack colorées. Et donc c'est un domaine qui a retenu tout à fait mon attention. Simplement, on ne peut pas parler de tout en 50 minutes. Et la couleur a une incidence, je pense, plutôt vers ce à quoi vous faites allusion dans la troisième partie de votre question, qui est le sentiment, le sens de la beauté. La couleur n'est pas très utile en traitement d'image. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu vrai aussi. On n'a pas vraiment besoin de couleurs pour faire de la stéréoscopie, pour faire de l'analyse du mouvement, même pour faire de la segmentation. La luminance suffit amplement. Alors, le sens du beau, bien entendu, je suis, comme vous, sensible à la beauté d'une œuvre d'art, enfin je l'espère, un tableau, mais il s'agit d'un niveau d'appréhension des phénomènes qui est tout à fait différent de celui de la vision par ordinateur pour l'instant. L'approche est, comme je l'ai dit au début, réductionniste. On est cartésien, on essaie de décomposer un problème très compliqué en sous-problèmes un peu plus simples. Et donc la partie perception du beau est vraiment tellement difficile à modéliser, elle fait appel à des fonctions cérébrales qui sont tellement supérieures. La mouche ne pense pas à une notion du beau très développée. On en est au niveau de la mouche pour l'instant. Donc voilà. Et la première partie de votre question sur peut-on attribuer un crédit quelconque à une séquence d'images, ma réponse est évidemment non, malheureusement, puisque vous voyez, on peut faire n'importe quoi, et il n'y a pas d'organisation citoyenne qui permettrait de contrôler ce genre de choses. Je pense que c'est très important que la CNIL, d'ailleurs, la CNIL regarde ce genre de problème, mais qu'il y ait des ONG qui regardent ce problème, parce que sans ça, les outils que j'ai décrits, dont j'ai montré certains exemples, mis entre les mains de n'importe qui, peuvent faire n'importe quoi. On en a vu des exemples sur des photographies dans un pays qui a changé de nom très récemment. Maintenant, c'était c'est à la portée de tout le monde.
Une question là-haut, madame. Levez-vous, s'il vous plaît.
Oui, alors moi, je ne suis pas du tout une scientifique, Mais je suis venue ici justement pour parler d'art. Parce que j'ai vu un film sur Piero della Francesca, La flagellation, qui a été traité par informatique. Et on a reconstruit l'architecture de Piero. Et ce tableau est très, très mystérieux. Il y a eu des livres et des livres qui ont été écrits sur l'interprétation de ce tableau. Oui. Alors, je voudrais savoir si on peut se fier à cette reconstruction du tableau de Piero ou rester à ces multiples interprétations qui ont été données auparavant. Parce que cette interprétation informatique est absolument fascinante.
Oui.
Et c'est un peu pour cela que je m'intéresse à l'informatique, en fait.
Oui.
Informatique et art, et entre autres pour l'archéologie aussi. Il y a des sites qui sont reconstruits en Égypte, par exemple, à partir de l'informatique.
Oui.
Est-ce que c'est fiable ou non ?
Je vais vous donner une réponse nuancée. Est-ce que c'est fiable ? Écoutez, en ce qui concerne le tableau auquel vous faites allusion, je n'ai pas vu la reconstruction 3D, mais j'en ai vu d'autres, des collègues de l'université d'Oxford qui utilisent des techniques identiques à celles dont j'ai parlé dans la partie géométrie, c'est-à-dire la géométrie projective, ont réalisé un système très facile à utiliser qui permet de manière interactive, certes, si l'on fait l'hypothèse que le peintre, l'artiste, a utilisé pour faire son œuvre les règles de la perspective. Donc si on fait cette hypothèse-là, en utilisant ce système, on peut en général, en regardant ce qu'on appelle des points de fuite, des droites de fuite... On peut donc reconstruire en 3D la scène qui est représentée. Donc la réponse est, si le peintre a utilisé correctement les lois de la perspective, on peut le faire et les résultats sont fiables. Évidemment, c'est une dépoétisation puisque finalement, au lieu d'avoir une multitude d'interprétations qui dépendent finalement chacune de la personne qui regarde le tableau, on aboutit à une seule qui est une interprétation mathématique et qui n'est pas forcément celle que recherchait l'auteur. Donc elle est fiable au sens où elle est mathématiquement correcte, mais pas plus.
Une question, madame, là. Levez-vous, s'il vous plaît, sur la gauche.
Oui, moi, je voulais faire une intervention à plusieurs points. Une qui complète peut-être celle du monsieur précédent par rapport à la réalité augmentée, c'est par rapport au stade précédent dans votre exposé, quand vous avez montré les trois images de chemin avec lesquelles vous faisiez un film.
Oui.
Et donc vous disiez que dans le film, on voyait finalement le derrière d'un cyprès qu'on ne voyait dans aucune des trois images.
Ah non, j'ai pas dit ça.
Non ?
J'ai pas dit ça.
Ah bon ?
Ça, c'est impossible.
Ah bon ? Non, justement, je voulais vous demander si justement on faisait des interpolations avec les images.
Oui.
Alors si vous me dites que c'est impossible, je souffle un peu. Quoi.
Oui, on peut le faire, mais je ne l'ai pas fait. L'idée que je cherchais à faire passer là, c'était qu'il n'y avait pas de représentation explicite de la scène 3D, mais tout ce qui était présent dans les films était présent dans les images.
D'accord. Donc c'est déjà un petit acquis.
Ça vous rassure. Peut-être.
Oui, ça me rassure un peu. Alors ceci étant, parce qu'il s'agit d'art aussi, moi je suis, j'avais presque envie de dire, est-ce qu'on peut avoir un style quand on traite les images plus que de la beauté, il s'agit de pour moi de style. Donc est-ce qu'on en reste à des choses simplement mathématiques et tous les mathématiciens donneront donc la même image, ou est-ce que déjà intervient la notion style et même la notion d'auteur dans le traitement des images, même scientifique d'ailleurs, est-ce qu'il y a un style? Et puis la troisième chose que je voulais dire, moi je suis un petit peu choquée parce que je suis physicienne, de l'utilisation abusive de certains vocabulaires, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on minimise quelque chose qu'il faut faire appel à des concepts de minimisation de l'énergie qui sont des concepts du côté de la réalité. Donc il faut, il me semble, inventer d'autres vocabulaires quand on parle de choses virtuelles.
D'accord. Alors... Alors la notion de style, le style, Moi, je suis mal placé pour en juger. Je pense que ce que l'informatique fait, c'est mettre à la disposition des gens des outils. Ensuite, la façon dont ils utilisent ces outils ne sont pas des carcans. Donc la façon dont les gens utilisent ces outils traduit peut-être un petit peu la notion de style. Donc ça, c'est un premier point de vue. Un deuxième point de vue, c'est au niveau de la réalité augmentée, dont on a parlé abondamment, la façon dont on insère les objets, la façon dont on les crée dans un système de cerveau, tout ça est à la disposition de l'artiste. Et donc, on peut parler d'un style des effets spéciaux, bien que je n'ai pas un amour immodéré pour les effets spéciaux, mais bon, voilà. Le deuxième volant de votre question, c'était l'énergie, vous ne devriez pas dire énergie. Alors, oui, peut-être, avez-vous raison, vous êtes physicienne, je suis informaticien, mathématicien, mais les outils mathématiques qui sont utilisés sont très exactement ceux de la physique mathématique. On peut parler d'invariant aussi, il y a l'analogue de l'invariance, de la conservation de l'énergie ou de l'invariance des phénomènes par rapport au temps, on les retrouve là-dedans. Donc ce serait un peu dommage d'utiliser un autre vocabulaire que celui qui a été développé par nos grands prédécesseurs, et, parce que c'est le bon, je crois, bien que l'énergie soit virtuelle.
Monsieur Aumélieu, une question, oui.
Bonjour. Vous nous avez montré un homme et une représentation, un modèle, une représentation d'un homme. Oui. Est-ce qu'on est à l'étape d'un concept, c'est-à-dire, si je recherche une table, est-ce que le concept de la table peut être modélisé et après, dans un film, rechercher toutes les images dans lesquelles il y aurait une table ?
Alors, je dirais que ça, c'est l'un des grands problèmes en vision par ordinateur et intelligence artificielle, un passage au concept. La réponse est... pour la partie table, oui, peut-être. Parce qu'une table, ça se modélise bien paramétriquement. Peut-être qu'on ne trouvera pas toutes les tables, c'est-à-dire une table qui a été inventée par quelqu'un en posant une vieille planche de bois sur trois morceaux de pierre, ou quatre morceaux de pierre, parce que ça ne satisfera pas bien la classe de modèle qui a été définie. Donc le concept n'est pas vraiment identifié ni représenté. Mais je dirais que pour quelque chose d'aussi simple qu'une table, ou d'aussi compliqué qu'un corps humain, on peut arriver à trouver toutes les personnes dans des séquences d'images ou toutes les tables. C'est difficile, c'est à la limite de ce qu'on sait faire. Mais la notion générale de concept, enfin le concept général, le concept général d'objet, de classe d'objet, non. C'est un domaine c'est vraiment une question ouverte, tant au niveau de la vision par ordinateur que des recherches en neurophysiologie de la vision. Hein. Comment est-ce qu'on représente, comment est-ce que les pigeons représentent le concept d'arbre, par exemple? Ils reconnaissent des arbres sur des photos, comment ils font? On ne sait pas.
Une question là, monsieur.
Dans une conférence précédente, monsieur Berthoz nous avait rappelé le phénomène des saccades oculaires et avait insisté sur le fait que précisément l'œil, par ses saccades, ne recueillait pas toutes les informations possibles qui existaient dans l'environnement. Est-ce que le traitement des informations par ces saccades peut être, peut recouper plus ou moins, enfin, peut-être un analogue des calculs se faisant sur les mosaïques que vous avez évoquées?
L'analogie entre les saccades et les mosaïques. Écoutez, c'est un petit peu difficile. Effectivement, la mosaïque, finalement, c'est une méthode qui permet de recoller différentes vues. Alors, effectivement, si vous prenez l'analogie fovea-caméra, on a bien une correspondance entre les deux. Maintenant, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que, finalement, le cerveau, la mémoire, constitue une espèce de... explicitement une espèce de mosaïque des différents points de vue qu'elle a analysé, je ne sais pas. Mais l'analogie est intéressante. Ce que je peux dire aussi, c'est que le capteur caméra n'est pas du tout similaire au capteur rétinien. Il n'y a pas du tout la notion de fovea sur la rétine. Toutes les cellules ont la même résolution sur un capteur CCD. Et donc on n'a pas cette très haute résolution au centre suivie par une baisse de résolution sur la périphérie. Quoique certains collègues roboticiens, notamment à l'université de Gênes, un collègue Giulio Sandini, a construit des caméras qui sont en fait des copies de rétine, avec une zone centrale qui est à très haute résolution et une zone périphérique à faible résolution. Et donc là, pour effectuer ces traitements, il est vraiment obligé d'avoir des mouvements de caméra. Alors que dans le cas de la mosaïque, c'est un tout petit peu artificiel, bien que l'analogie soit bonne.
Question là, monsieur, levez-vous.
Monsieur, je vous remercie infiniment pour
cette conférence. Parlez dans le micro.
Et j'ai assez bien compris quel était le but ultime, provisoire même, provisoirement ultime de votre recherche, à savoir le couplage, comment dire, bio-optique, oui. Si vous voulez, oui. Ce qui me paraît assez fantastique, enfin, il faut y croire. Et donc, la méthode que vous utilisez, à savoir l'utilisation d'un principe variationnel sous contrainte, au mot utilisé, j'ai un de mes amis qui, en cosmologie, utilise le mot présence. Il me semble que, pour la fonctionner, il me semble qu'en l'occurrence, ça serait assez bienvenu. Bon, ceci étant, si j'ai bien compris ce que vous avez dit en conclusion, je crois avoir compris que vous pourriez, avec cette méthode-là, créer des scènes virtuelles, créer des scènes complètement imaginaires.
Oui.
Assez réaliste.
Oui, oui.
Comme ça d'ailleurs été fait, et puis ça a même été exploité dans certains films américains d'ailleurs.
Absolument, ouais, ouais.
Est-ce qu'il n'y aurait pas des implications juridiques un peu gênantes dans cette affaire-là?
Oui, votre question est intéressante. Elle se rapproche d'une des questions précédentes. J'ai oublié la personne, je crois que c'est la première question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images? Est-ce qu'on peut ces images synthétiques, est-ce qu'on peut leur faire confiance? J'ai répondu très franchement non, à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas en place, de mise en place de système juridique qui permette de contrôler des processus comme le watermarking, l'étiquetage des images. Peut-être une voie vers une certaine sécurisation de l'utilisation des images, mais il en existe certainement d'autres, et je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Enfin, il faut être inquiet. Il faut être inquiet. C'est notre rôle de citoyen.
Encore deux questions, monsieur d'abord et après là.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Je suis enchanté par votre exposé, accompagné de images merveilleuses. Ce traitement d'images me fait penser aussi au traitement de texte. Peut-être c'est un peu bizarre, puisque le texte, qu'y a-t-il avec l'image? Je veux parler de l'écriture chinoise. Comme vous savez, oui. Les caractères chinois sont des idéogrammes, oui. Qui représentent l'image. Oui. Donc, on me demande très souvent combien de caractères y a-t-il en chinois. Je réponds au maximum 50 000. Tout le monde est étonné. Alors, j'ajoute tout de suite à peu près 2 000 que nous utilisons quotidiennement. Mais malgré tout, comparé à une trentaine d'alphabets, 2 000 écritures, caractères, c'est énorme. Alors, au moment de l'introduction d'ordinateur, pour faire le traitement de texte, oui. Avec au moins 2 000 et au plus 7 000 caractères, comment on peut le réaliser? Justement, c'est l'étonnante faculté de computer, bien de ordinateur, que maintenant, en Chine, au Japon, on peut traiter le texte assez facilement.
Oui.
Voilà, donc je crois que le traitement de l'image a donné beaucoup de bénéfices, me semble-t-il, oui. Au traitement de texte. Et puis, j'ai remarqué que vous avez sur l'écran, pour le mot à partir de, c'est-à-dire à partir de A majuscule. Vous avez bien accentué sur ce A majuscule, il me semble.
Oui, en effet, oui.
Oui, c'est ça. Oui,
mais donc, la règle n'est pas stricte. Hein.
Oui. Pour le traitement de texte en français, donc désormais, je crois qu'on peut accentuer bien sur les capitales mêmes. N'est-il pas vrai?
Écoutez, alors là, vous posez une colle. Je crois que la règle n'est pas stricte et qu'on peut faire... Les deux sont autorisés. Maintenant, s'il y a une éminence dans la salle... Enfin, je vous remercie de vos commentaires. Oui.
Merci, monsieur. Vous avez mis le doigt sur deux points qui m'intéressent particulièrement, la médecine et puis la cosmologie. Bon, en ce qui concerne la cosmologie, je pense que c'est par les visions par ordinateur qu'on peut voir, entre guillemets, l'univers par exemple. On pourrait voir comme ça, explorer les planètes sans même y encore avoir mis le pied dessus, par exemple. Et pour ce qui est de la médecine, on doit pouvoir, grâce au modèle, prévoir de faire des prothèses ou des trucs comme ça. Et en ce qui concerne la lutte contre la cécité, on doit pouvoir utiliser les capteurs, non ?
Oui. Alors écoutez, je ne me souvenais pas que j'avais parlé de cosmologie, mais si vous le dites, je bien le crois. La médecine, vous avez tout à fait raison. Et il y a une application qui est très chère à mon cœur de réalité augmentée sur laquelle je travaille en ce moment avec une collègue de l'INRIA, Eve Kostmanière, qui est une roboticienne, et avec le professeur Alain Carpentier, qui est un chirurgien cardiaque très connu. Et donc l'idée, c'est il utilise dans certains cas un robot pour faire son intervention, de façon à avoir une approche de chirurgie minimalement invasive. C'est-à-dire qu'au lieu de vous ouvrir le thorax, on vous fait trois petits trous. Deux des trous servent à intervenir, à faire pénétrer les instruments, et le troisième, l'endoscope, qui permet au chirurgien de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc le système qu'on est en train de développer pour aider Alain Carpentier et ses collègues, c'est lui, il a un retour visuel qui est très limité, puisque l'endoscope c'est tout petit, donc il a une vue très limitée du cœur du patient ou de la patiente. Et ce qu'on voudrait faire, c'est superposer à cette image un modèle 3D du cœur pour lui dire, maintenant c'est un peu plus à droite que se trouve l'artère que vous cherchez, un peu plus à gauche, vous êtes perdu, etc. Donc ça c'est une très bonne application de la réalité augmentée à autre chose que les effets spéciaux, donc à la chirurgie minimalement invasive. Le troisième volet de votre question, c'était, vous avez parlé de médecine
et de cosmologie.
Et de cosmologie, donc. Ah oui, les prothèses visuelles. Alors là, oui, il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est très compliqué. On connaît pas le code. Oui, mettre un circuit de silicium dans le cortex visuel, sur le cortex visuel, qui s'interface directement à V1. Aujourd'hui, c'est impossible. Enfin, c'est impossible au sens... C'est possible, puisqu'on l'a fait, vous l'avez vu dans la presse. Mais les gens ne voient pas des images. Ce qu'ils voient, c'est des phosphènes, et il faut que leur cerveau réapprenne complètement la représentation des images. On n'arrive pas... Comme on ne connaît pas le code qu'il faut envoyer sur ces grappes de neurones, on ne peut pas faire percevoir à ces gens ce qu'ils percevaient avant le début de leur cécité. Donc il y a un travail absolument énorme avant d'arriver à quelque chose qui soit réaliste du point de vue de ces malvoyants.
Olivier Faugeras, je vous remercie.